Europe 1.
8h13, votre invité Sonia Mabrouk est le député La France Insoumise du Nord.
Et coordinateur du parti, effectivement. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Le pouvoir d'achat a augmenté, affirmation du gouvernement. Il a même augmenté deux fois plus que sous les quinquennats précédents, a affirmé le Premier ministre. Si on se base sur les chiffres de l'INSEE, c'est difficilement contestable. Est-ce que vous le reconnaissez?
Mais c'est vraiment formidable parce que 6 Français sur 10 disent que leur pouvoir d'achat a baissé pendant le quinquennat de M. Macron. Mais M. Macron, à l'entonnoir, va leur dire « Non, vous avez tort, regardez, votre pouvoir d'achat a augmenté ». Non, le pouvoir d'achat, en réalité, n'a pas augmenté, y compris pour les Français les plus précaires. On a vu ces courbes un peu folles que le gouvernement nous présente, où on nous montre que les plus riches auraient bénéficié d'une hausse de pouvoir d'achat de seulement 2%, mais les plus pauvres de 6%, donc c'est plus pour les plus pauvres. Tout le monde comprend qu'en valeur, 6% de petites sommes, c'est beaucoup moins que 2% de sommes énormes. Vous savez, s'il fallait résumer à grands traits le quinquennat de M. Macron, moi je le fais désormais comme ça, quand M. Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les 500 familles les plus riches de ce pays possédaient un patrimoine de 570 milliards. Ce patrimoine a doublé en un quinquennat. Et dans le même temps, on est passé de 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté à 10 millions. La France, après le passage de la tempête Macron, c'est un océan de pauvreté dans lequel vous avez des îlots de richesses extrêmement concentré. Vous avez un Français sur trois, c'est Mabrouk, qui déclare avoir du mal à payer son loyer. Un Français sur cinq qui dit devoir sauter des repas pour boucler ses fins de mois. 8 millions de Français qui ont besoin de l'aide alimentaire. Et sans compter la hausse des prix que nous connaissons ces derniers temps, qui vient en plus percuter les éléments sur le pouvoir d'achat.
Hier, à votre place, au micro d'Europe 1, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a mis en avant, Adrien Quatennens, la baisse du chômage. Grâce à l'exécutif, meilleur moyen, dit-il, de retrouver le pouvoir d'achat. C'est le cas, là les chiffres aussi le prouvent.
Mais c'est pareil, c'est Mabrouk, c'est magique ça. C'est-à-dire que on nous dit que le chômage baisse, mais moi peut-être comme vous j'ai regardé, il y a plus d'inscrits à Pôle emploi qu'avant. Donc c'est-à-dire le chômage baisse, mais il y a plus d'inscrits à Pôle emploi. Il y a aujourd'hui plus d'inscrits à Pôle emploi que l'année dernière à la même période et qu'en 2017. Donc bien évidemment, il y a des effets de catégorie, c'est très technique, mais la réalité sociale n'est pas modifiée. Vous avez par ailleurs près de 90% des embauches qui sont réalisées en contrat très précaire. Alors vous sortez des statistiques du chômage, mais souvent quand les chiffres sortent, vous y êtes déjà retourné. Non, il faut dire une chose, en matière d'emploi, la politique du gouvernement, dans la continuité d'ailleurs des deux précédents, se résume à diminuer les droits des travailleurs et finalement pourchasser plus les chômeurs que de lutter contre le chômage avec la réforme de l'assurance chômage. À rebours de tout cela, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons une pénurie d'emplois pérennes créés. Bien sûr, on nous parle souvent des emplois non pourvus. Et moi, je ne conteste pas que dans certains secteurs d'activité, il y a des emplois non pourvus. Je pense par exemple au secteur de la restauration. Mais si on regarde tout ça avec un œil macroéconomique, si on met en corrélation le nombre d'inscrits à Pôle emploi avec le nombre d'emplois non pourvus, ça vous fait un ratio de 1 emploi non pourvu pour 25 chômeurs disponibles.
Donc
les solutions sur l'emploi, plutôt que ce que M. Macron fait depuis le début de ce quinquennat, ça passe par des méthodes qui sont assez traditionnelles, mais qui jusqu'à preuve du contraire fonctionnent. La diminution du temps de travail. Ensuite, on a un grand défi devant nous, c'est la planification écologique. Et nous souhaitons instaurer même une garantie d'emploi, c'est-à-dire tout chômeur de longue durée volontaire qui ne trouve pas d'emploi devrait se voir proposer en dernier ressort un emploi qui correspond à ses qualifications.
Bien sûr, sur vos propositions, mais là, première question, pouvoir d'achat, vous me dites les chiffres, non. Deuxième question,
chômage. Attendez, je ne dis pas les chiffres, non. Je dis que les chiffres, on peut leur faire dire
tout
et son contraire.
Oui, mais à qui vous répondez ce matin, à ceux qui disent, vous refusez de voir même toute bonne nouvelle relative, que l'opposition pavlovienne à Emmanuel Macron vous rend non lucide?
Non, mais je pense qu'au contraire, notre opposition est très rationnelle. Quand je vous dis que le patrimoine des plus riches a augmenté, a doublé en un quinquennat, mais qu'il y a plus de pauvres, M. Mabrouk, si vous voulez quelques chiffres, y compris sur des mesures prises par M. Macron, j'en ai trois à vous citer qui, je pense, sont édifiants. Sur, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation. Ce sont les 20% les plus riches qui ont capté 50% des gains. Les 10% les plus riches de ce pays ont capté 22% des gains de redistribution de M. Macron. Et les 0,1% les plus riches de ce pays ont accru leur fortune de 25%
qu'est-ce
sous
que vous
le quinquennat
les plus
de M. Macron.
À partir de quel, j'allais dire, niveau?
Vous savez, les 0,1% les plus riches, c'est très très peu de monde. Mais par exemple, pour citer notre grand milliardaire en chef, M. Bernard Arnault, pour lui, très concrètement, le quinquennat de M. Macron, c'est passé de 47 milliards de fortune à 157 milliards. Et y compris, Sonia Mabrouk, le capitalisme est incapable de se corriger parce qu'il tire profit, y compris des crises. Vous avez vu que ces milliardaires ont accru leur richesse en pleine crise Covid de 30%.
Parlons de et c'est la valeur de son entreprise hein, pour Bernard Arnault.
Non mais attendez.
Non mais
si
je
vous
réponds
supportez,
sur
non,
cela.
Mais, si non, vous,
non non mais je vous réponds sur ce que vous dites.
J'entends ce que vous me dites aussi, mais si vous vous supportez que en France on puisse gagner en 6 secondes. Je les ai presque laissés là, les 6 secondes.
J'ai bien compris.
En 6 secondes, ce que gagne un travailleur moyen en toute une vie de labeur.
Mais
moi, je pense qu'on ne fait pas une société comme ça.
Puisque vous êtes responsable politique, vous agissez sur les actions et les faits. Revalorisation de la prime d'activité, baisse de l'impôt sur le revenu, notamment pour les classes moyennes et les plus défavorisées. Tout cela a été fait au cours de ce quinquennat.
Les 50 milliards, tout compris, de multiples cadeaux fiscaux en tout genre, ont bénéficié d'abord aux plus riches de ce pays. Je cite un exemple qui était quand même fortement symbolique, Sonia Mabrouk, vous vous en souvenez. Quand M. Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, il nous a promis à toutes et tous que ça allait avoir un effet sur l'emploi et l'investissement. Il a même dit d'ailleurs, si ça n'a pas d'effet sur l'emploi et l'investissement, on corrigera. Madame Schiappa, que je prends de nouveau à témoin ce matin depuis votre micro, avait elle-même dit en 2018, si la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune n'a pas d'effet sur l'emploi et l'investissement, c'est Madame Schiappa qui parlait, je proposerai son rétablissement. Très bien madame, séance tenante, rétablissez-le. Parce que France Stratégie, ça n'est pas un organisme qui peut être suspecté d'être proche des insoumis. Et précisément, ils viennent de dire que la suppression de l'ISF n'a eu aucun effet sur l'emploi et l'investissement.
Quand vous dites les plus riches, est-ce que vous admettez que parmi les plus riches, vous avez cité Bernard Arnault et il y en a d'autres, mais vous avez cité l'exemple, j'allais dire, le plus important, le plus éloquent dans ce domaine-là. Est-ce que vous admettez qu'ils sont aussi créateurs de richesses, d'emplois pour le pays, d'emplois?
Écoutez,
vous avez 6 secondes
aussi
pour réfléchir.
Qu'il y ait des créations d'emplois, c'est évident, mais il y a aussi beaucoup de destructions.
Mais vous les reconnaissez, ces créations?
Mais attendez, je reconnais les créations, mais Sonia Mabrouk, je reconnais aussi les destructions. La philosophie d'une entreprise, quand on dit c'est l'entreprise qui crée l'emploi, enfin, vous le savez comme moi, la raison d'être d'une entreprise, c'est pas de créer des emplois. Certes, elles en créent, mais elles en détruisent beaucoup aussi. Par exemple, l'an dernier, c'est 284 000 emplois salariés qui ont été supprimés. Mmh. Monsieur Bruno Le Maire, à ce micro, est venu dire qu'il n'y avait pas eu de casse sociale. Je sais pas comment vous vous appelez, 1000 plans sociaux pour 112 000 licenciements, y compris d'entreprises qui...
Non, mais s'il y avait plus de Bernard Arnault dans ce pays, il y aurait peut-être plus d'emplois.
Non, je n'y crois absolument pas. Ce qui se passe, Madame Sonia Mabrouk, c'est qu'on a une véritable rapacité du capital sur le travail, et ça se vérifie. Quand vous regardez ce qui s'est passé ces 10 dernières années, ça a le mérite d'être clair, en 10 ans, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%. En revanche, l'investissement productif dont nous aurions besoin pour relever tous les défis que nous avons devant nous, a reculé de 5% et les salaires ont progressé d'environ 10%. On ne peut pas relever les défis qui sont devant nous. On ne peut pas faire société avec de tels niveaux d'écart. Ça n'est pas possible.
Alors, on va rester sur ce sujet essentiel face à l'augmentation des prix de l'énergie. Vous avez proposé de bloquer les prix. Le gouvernement, Adrien Quatennens, a opté pour une autre voie, une indemnité inflation, et face désormais à l'augmentation du prix de la baguette en raison de la flambée des cours du blé. Que proposez-vous ?
Écoutez, moi je pense qu'en effet, le blocage des prix, en tout cas des produits de première nécessité, est une mesure utile. Sur l'énergie, d'un mot, c'est le concours l'épine des solutions, c'est-à-dire en gros la fiscalité d'un côté, le chèque énergie. La vérité, c'est qu'on joue sur la fiscalité. Ce que vous gagnerez à la pompe, vous le paierez demain en impôts. Sur un chèque énergie, c'est pareil, c'est le contribuable qui le finance. En revanche, on ne parle pas assez du blocage des prix. C'est une solution simple, efficace, celle que Jean-Luc Mélenchon a proposée. On me dit c'est impossible. Si, le Code du commerce le permet.
Si, d'ailleurs, c'est possible, dernièrement, mais est-ce que c'est le rôle du politique? Bloquer les prix du gaz, de l'électricité, des produits alimentaires
jusqu'où? Sonia Mabrouk, ce fut le rôle du politique à plein de périodes. Mmh. Vous allez me dire c'est un contexte un peu particulier, mais pendant la guerre du Golfe, on a bloqué les prix du
situation
pétrole.
Situation exceptionnelle.
Certes, vous voulez un exemple plus récent, le gel hydroalcoolique. Vous vous en souvenez?
La situation
il y avait
sanitaire,
les effets de marché,
le COVID,
offre et demande. On a bloqué,
mais
on a bloqué les prix. Là, il y a une situation exceptionnelle, c'est que les gens sont pris à la gorge et que ça n'est pas en versant une prime extrêmement aléatoire de 100 euros, ou alors il va falloir en cracher souvent des chèques énergie, parce que les effets de marché vont continuer à faire monter les prix. Donc, un blocage des prix, ça me semble être une absolue évidence. Aussi, dire une chose, c'est que la hausse des prix a une origine, ce sont des effets essentiellement de marché. Pardon, mais creuser un trou pour extraire du pétrole ne coûte pas plus cher aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Ce sont de simples effets de marché. Le gaz augmente essentiellement pour des effets de marché aussi. L'électricité d'ailleurs, son prix est indexé sur la hausse du gaz dans ce mécanisme de marché. Donc extraire l'énergie du marché est aussi une solution. Quand la Commission européenne a défendu l'ouverture des marchés à la concurrence, elle avait dit aux usagers français,
mais là, c'est un long
le
combat.
Prix va baisser. C'est un long combat, mais je pense sincèrement, c'est Mabrouk, je pense que c'est un vrai sujet parce qu'on le voit encore ce matin, Bruno Le Maire est en train d'essayer de négocier au niveau européen la baisse des prix d'électricité, en tout cas la maîtrise des prix d'électricité. Mais comme c'est le marché qui dicte sa loi, eh bien ça va continuer à augmenter.
Oui, mais attention, le marché, l'hydrogène, on a eu besoin aussi à un certain moment pour la France. Donc,
sur l'énergie, ça mérite d'être clair. Depuis l'ouverture des marchés à la concurrence qui devait faire baisser les prix, le gaz a pris 80% dans la vue et l'électricité 60%.
Monsieur Quatennens, les salaires. Le débat sur l'augmentation des salaires est un classique à l'approche d'une présidentielle, mais dans les entreprises, il y a quand même un dialogue social qu'il faut respecter. Que faire alors? Est-ce que vous seriez pour contraindre à une augmentation des salaires?
Écoutez, il y a une manière simple de le faire, l'augmentation du SMIC, et ça a un effet vertueux. J'entends là aussi toutes sortes de propositions floues et confuses. L'un qui propose une conférence de ceci, une augmentation de 10% de cela. Avec Jean-Luc Mélenchon, les choses sont simples et claires. C'est une augmentation du SMIC net à 1400 euros. Alors, ça a un effet vertueux immédiatement. C'est que si vous augmentez les salaires des petites payes, songez-y un instant. Les gens ne vont pas aller faire des tas au boursicoté. Ils vont injecter cet argent dans la consommation populaire. Il faut dire aussi que la dictature du moins cher nous pose un problème. Parce que en tant que consommateur, avec de bas niveaux de revenus...
Il faut en parler. Parce que vous parlez d'un effet vertueux, Adrien Quatennens. Mais sur l'augmentation des salaires, le patron du MEDEF dit que ça entraînerait une augmentation des prix. Avec un exemple qui parle à tout le monde, la restauration. Si on augmente les salaires, le menu va augmenter, donc augmentation de prix. Donc ce serait totalement contre-productif.
Mais je pense qu'il faut admettre qu'on peut mieux payer les gens et donc assumer qu'on ne court pas toujours après le moins cher. Je prends un exemple. Si on dit qu'il faut mieux rémunérer nos agriculteurs, qu'il faut une agriculture paysanne relocalisée, oui, à produire, ça va coûter plus cher que l'agriculture intensive pourrie de pesticides. C'est pourquoi augmenter les salaires, c'est aussi une mesure écologique, on peut le dire. Et puis, Sonia Mabrouk, juste une chose.
Oui, mais... donc vous assumez, et on serait tous d'accord sur le consommer mieux, mais même si c'est plus cher.
Ben évidemment, de toute façon, consommer mieux par définition.
Tout à l'heure, vous êtes en train de me dire.
Oui, mais c'est la raison pour laquelle il faut augmenter les salaires. Et puis surtout dire une chose, ces 20-30 dernières années, la productivité a beaucoup augmenté. D'accord? Ça veut dire que pour produire le même stock de richesse aujourd'hui, il faut moins de travail humain. Pourtant, Sonia Mabrouk, les salaires n'ont pas augmenté et le temps de travail n'a pas diminué. Donc où va? Oui. Je vous pose la question, où va cette hausse de la productivité?
Mais certaines entreprises ne peuvent pas augmenter les salaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? La clé sous la porte? Des emplois menacés?
Non.
Ou augmenter?
Moi, je vous dis
ça
une chose,
existe quand même
pour les très petites entreprises, qui d'ailleurs n'ont pas bénéficié des aides de M. Macron, moi j'ai regardé le détail, les baisses d'impôts de production, ça représente 940 euros de gains pour une TPE, ça représente plus de 9 millions pour une grande société. Donc, y compris pour les aides aux entreprises, M. Macron, son modèle, c'est d'aider les grandes entreprises. Dire une chose,
vous toujours
augmentez...
le verre à moitié vide.
Non, si vous augmentez les salaires, Mabrouk, ça fait aussi des débouchés pour les TPE, les PME. C'est potentiellement des gens qui ne réfléchissent plus à se payer, pourquoi pas, un restaurant, à aller consommer des produits qui peut-être ne consommeraient pas. C'est vertueux pour l'économie.
L'autre moyen de contrer l'augmentation des prix de l'énergie, Adrien Quatennens, à plus long terme, ce sont bien sûr nos choix énergétiques. Le rapport du gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE est au cœur d'un vif débat. Les écologistes parlent de manipulation, tandis que le gouvernement s'appuie sur ce rapport pour justifier la relance du nucléaire. Ce rapport, pour faire vite, étudie 6 scénarios possibles, mais insiste sur la compétitivité du nucléaire, énergie décarbonée. Vous ne contestez pas cette conclusion?
Bon, d'abord, le rapport de RTE est très intéressant parce que dans les 6 scénarios, il y a un scénario 100% renouvelable. Non, mais ce qui veut juste dire une chose, c'est que quand on balaye d'un revers de la main l'idée que c'est faisable techniquement, non, techniquement c'est faisable.
Coût faramineux, conditions techniques extrêmement difficiles, voire insurmontables. Là,
je vais vous répondre,
pour préparer notre entretien, 180 pages.
Non, mais déjà une chose, admettez au moins que dire techniquement c'est impossible, c'est faux. Puisque le rapport de RTE...
Non.
Alors, ensuite, sur la question des coûts. En effet, la conclusion qui a été tirée, à mon avis, un peu à la va-vite du rapport du RTE, c'est que comme ils disent qu'entre le scénario 100% renouvelable et le scénario nucléaire, il y a 15% en gros d'écart de prix, la traduction que tout le monde en fait, c'est de dire il faut relancer le nucléaire et reconstruire des centrales. Il y a autre chose qui a été, je crois, un peu occultée, mais qui est présent dans le rapport du RTE, c'est le coût du capital. Parce que le RTE dit ceci, et disent, quels que soient nos choix énergétiques, la question de savoir si c'est encore une fois le marché qui dicte les prix ou si c'est un monopole d'État fait la différence. En effet, c'est Mabrouk, l'État se finance aujourd'hui à 1%, alors que le privé exige des taux de rendement de 7%.
Donc,
non, mais là, c'est très concret. Ça veut dire qu'indépendamment de nos choix énergétiques, ce qui coûte cher, c'est pas les choix qu'on va faire, c'est d'abord, est-ce que c'est le marché et les capitaux privés ou est-ce que c'est le public?
Les énergies solaires et éoliennes sont intermittentes. Il faut compléter, compenser ces absences. On est en France à la limite d'exploitation des capacités hydrauliques et même l'hydrogène offre des possibilités insuffisantes. Comment vous faites?
Alors, d'abord, dire une chose, nous sommes à l'heure des choix. C'est-à-dire que, y compris quand on parle de nucléaire, Sonia Mabrouk, en fait, en réalité, il s'agit
d'une excellence française, rappelons-le.
Mais...
D'ailleurs, est-ce que vous le reconnaissez?
Mais bien sûr, moi je vais vous dire une chose. D'entrée de jeu, je vous dis...
Symbole de notre souveraineté?
Celles et ceux qui ont fait le choix, il y a quelques décennies, de mettre le paquet là-dessus. Je ne leur fais pas grief. Ça a permis, en effet, l'essor économique de la France, une énergie à moindre coût. Maintenant, soyons rationnels. Nous arrivons à une période où, vous le savez, nos centrales sont en fin de vie. Donc la question qui nous est posée, avec des centrales en fin de vie, c'est est-ce qu'on remet le paquet là-dedans? Est-ce qu'on relance le nucléaire? Ça va coûter presque 150 milliards, tout coût compris. Ou est-ce qu'à l'inverse, on met le paquet dans les énergies renouvelables? Sonia Mabrouk, moi j'entends les arguments de mes contradicteurs sur la question nucléaire. Ils disent, le nucléaire, ça a l'avantage de ne pas être intermittent. Pardon, mais l'été dernier...
Décarboné, pas intermittent, alors, excellence française, souveraineté.
Prenons les arguments un par un. Intermittent. L'été dernier, en plus de la maintenance, il y a eu de la sécheresse. Il y avait des cours d'eau qui étaient à sec et on a dû stopper des réacteurs pour cette question. Question de la décarbonation, moi je veux bien, mais si on regarde les projections en matière de climat, Sonia Mabrouk, vous avez par exemple en 2050, sous l'effet de la montée du niveau des mers, vous avez la centrale de Gravelines qui est sous la flotte, celle du Blayais aussi. Donc moi je dis une chose pour résumer mon propos, on ne remplacera pas 100% de la production nucléaire par 100% de renouvelables, mais nous fixons l'objectif de 100% de renouvelables.
Quand,
et pour cela...
Quand 2030, impossible. Alors, Jean-Luc Mélenchon a dit une fois, on va conclure, dites-moi juste pour quand.
Eh bien, c'est très simple. Le scénario Négawatt, que nous reprenons à notre compte, disait en effet 2035, il y a quelques années. Mais ils viennent de publier leurs résultats hier. Ils disent, on a perdu du temps. Donc, comme on a perdu du temps, il faut 10 ans de plus. Donc, simplement, 100% renouvelable. Et la clé pour ça, c'est aussi la sobriété énergétique. On a besoin, par exemple, de rénover 700 000 logements par an contre les passoires thermiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se passer et du nucléaire et des énergies fossiles.
Merci Adrien Quatennens.
À la condition d'en faire le choix politique.
Merci à vous. Merci Adrien Quatennens.
Merci de m'avoir invité.